L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
On va pencher nos têtes, on va remettre cette portion de la réunion maintenant au Seigneur dans la prière. Et comme Annabelle vient de mentionner, on va avoir nos cœurs ouverts pour recevoir ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Amen. Père éternel, on veut juste te remercier, Seigneur Dieu, pour ce privilège qu'on a d'être rassemblés dans cette place. Te remercier pour ton amour, un amour éternel pour chacun d'entre nous. Merci parce que tes compassions s'étendent sur nous, sur nos têtes. Merci, Esprit de Dieu, parce que tu veux nous visiter aujourd'hui. Tu veux nous transformer. Tu veux qu'on puisse goûter au ciel ce matin dans cette place. Nous te remercions pour ton onction en ce moment, que nous recevons, que nous vivons. Nous te glorifions à l'avance pour les choses qu'on va vivre ensemble dans cette réunion. On a prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous inviter, venez avec moi dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. On va commencer au verset 17. Amen. Gloire à Dieu. Cette semaine, le titre du message s'intitule « La paix et la provision divine ». Je ne sais pas si la majorité d'entre vous, si vous écoutez vraiment les nouvelles, ou si vous suivez peut-être un peu l'actualité sur Internet, mais peu importe les sources, si vous suivez un petit peu les choses qui se passent dans le monde, peut-être vous êtes perturbé ou peut-être même inquiet. Il y a plusieurs sources dans les médias qui nous parlent d'une crise économique potentielle. Il y en a qui disent avec certitude en 2015. Il y a des gens partout qui sont vraiment effrayés. Il y en a aussi même dans le monde chrétien qui annoncent en 2015 une crise économique. En anglais, on dit « global collapse ». Et puis, il y a plusieurs personnes qui sont effrayées, qui ont peur. Et puis, nous, les enfants de Dieu, devant les faits comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre réaction? Bien, certaines personnes vont avoir peur. Certaines personnes vont être angoissées. Ils vont vraiment expérimenter toutes sortes de défis à ce niveau-là, un défi au niveau de leur foi. Mais cette semaine, en préparation, ce que je ressentais vraiment, ce que l'Esprit de Dieu aurait pour vous ce matin, c'est que Dieu nous appelle à vivre par la foi, comme toujours. Peu importe ce qui va se produire en 2015, Dieu n'a pas changé, la puissance de Dieu n'a pas changé, la parole de Dieu n'a pas changé, et la provision de Dieu pour son peuple est encore disponible pour nous. Donc, peu importe ce qui va se produire en 2015, peu importe que ce soit l'abondance ou que ce soit la disette, peu importe, pour nous, les enfants de Dieu, Dieu a une provision surnaturelle. Et si nous croyons la parole de Dieu, nous allons marcher dans une paix surnaturelle. C'est ça qui est merveilleux, marcher dans une paix surnaturelle, sachant que je suis un enfant de Dieu, un enfant précieux du Seigneur. Vous aimez vos enfants. Si vous avez des enfants, vous les aimez, n'est-ce pas? Ben, gloire à Dieu, ma mère a dit oui, mais pour les autres parents, pour les autres parents, on va prier pour vous peut-être. Mais si vous avez des enfants, aimez-vous vos enfants? Oui, hein, vous aimez vos enfants. Et vous voulez prendre soin des besoins matériels de vos enfants, les besoins émotifs, les besoins physiques, peu importe. Quand on est un parent, quand on aime nos enfants, on veut que nos enfants se portent bien. Et notre Père céleste est encore plus merveilleux. Amen. Il nous dépasse. Dieu est tellement bon et glorieux. Et Dieu veut prendre soin de ses enfants. Et comme nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu l'a toujours fait. Dieu a toujours été fidèle à sa parole. Il a toujours pris soin de son peuple. Donc aujourd'hui, j'ai une parole de consolation, une parole d'encouragement. Si vous suivez un peu l'actualité ou vous écoutez les reportages concernant l'État islamique et puis les choses terribles qu'on peut voir en ce moment, les atrocités dans le monde, on peut être perturbé et dire, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jésus va venir nous chercher bientôt? Bien moi, je dis, oui, Seigneur, viens bientôt, gloire à Dieu. Mais certaines personnes peuvent être effrayées et dire, coudonc, est-ce que ça va arriver ici, au Québec, au Canada? On sait déjà, à Ottawa, il y a eu une personne qui est décédée, un soldat qui a été attaqué. On peut entendre parler de ces choses-là et être effrayé. Et l'ennemi voudrait qu'on embarque dans son jeu. L'ennemi voudrait qu'on ouvre la porte à la crainte. Parce que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, il voudrait qu'on ouvre une porte à la crainte et commencer à avoir peur du manque, peur des attaques. Mais on peut fermer ces portes-là, on peut les garder fermées et dire, « Non, mon Dieu va prendre soin de moi. » peu importe, même si une crise économique en 2015, même si c'était le cas, on ne connaît pas l'avenir, Dieu connaît toutes choses, même si c'était le cas, parce que je suis un enfant de Dieu, je sais que mon Père va prendre soin de moi. J'ai une paix dans mon cœur. Parce que moi, je sais en tant que parent, si Floramé et Félicité avaient besoin de nourriture, ils en ont toujours besoin, chaque jour. Mais s'ils étaient dans une situation, je ne sais pas, éloignée, je m'organiserais pour qu'ils puissent avoir leurs besoins de rencontrer. Amen. C'est comme ça que notre Dieu est. Et puis, on peut se réjouir dans la bonté de notre Dieu. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est juste recevoir cette parole, sachant que Dieu va prendre soin de son peuple et comprendre également le cœur de Dieu pour son peuple concernant les finances. Vous savez, dans le corps de Christ, on a beaucoup de difficultés parfois à parler des choses qui concernent les finances. Moi, j'ai souvent eu le commentaire quand je voyageais. À l'époque, quand je voyageais comme évangéliste, des fois, j'allais dans les églises et Dieu me donnait le mandat de prêcher sur les finances pour l'église locale. Et puis, les pasteurs étaient vraiment des fois surpris que je prêchais sur un tel sujet parce que, de un, j'avais absolument aucune raison de prêcher là-dessus pour un gain personnel parce que j'annonçais le message et je quittais. Donc, c'était pas pour l'église, mon église, c'était pour le peuple que j'apportais ce message-là. Et les pasteurs souvent me confiaient, ils me disaient, moi, je suis gêné en tant que pasteur de prêcher sur les finances parce que on peut me juger d'une telle façon. Mais moi, ça me faisait pas peur parce que je comprends, si on n'enseigne pas le peuple de Dieu, si on n'enseigne pas les principes de Dieu, les principes économiques de Dieu, le peuple de Dieu va souffrir. Parce que Dieu aime son peuple. Dieu aime son peuple et Dieu veut que son peuple puisse bien aller à tous les niveaux, pas simplement spirituellement. Comme dans le monde chrétien, souvent on pense que Dieu est concerné seulement par votre vie spirituelle. Mais savez-vous que votre vie quotidienne à tous les jours concerne le Seigneur? Votre vie quotidienne concerne le Seigneur. S'imaginer que Dieu est concerné seulement par votre esprit, c'est de faire fausse route. Si vous êtes malade dans votre corps, bien Dieu est concerné également par votre besoin de guérison. Croyez-vous ça? Si vous êtes en déficit et dans la pauvreté, Dieu est concerné par votre situation. Le cœur du Père est concerné. Notre Dieu nous aime tellement, il est concerné, et puis il nous a montré le chemin à suivre pour qu'on puisse vivre les percées. Donc aujourd'hui, que votre cœur puisse s'ouvrir à recevoir l'amour de Dieu. C'est un message, en fait, un message de l'amour de Dieu. Peut-être vous êtes angoissé en ce moment. Peut-être vous avez des craintes, et peut-être même vous vivez avec des problèmes au niveau de votre sommeil. Peut-être vous êtes perturbé même dans votre sommeil, pensant à vos dettes, et puis vous questionnez sur comment je vais payer mes comptes. Et Dieu a un meilleur plan pour vous. Vous savez, vous pouvez dormir en paix à chaque soir de votre vie. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ouvrez votre cœur aujourd'hui et recevez ce que Dieu en réserve pour vous. On va aller ensemble dans 1 Timothée chapitre 6, commençant au verset 17. Ici, l'apôtre Paul dit à son fils spirituel, Timothée, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. » Voyez-vous, ici, l'apôtre Paul dit à son fils spirituel, « Recommande aux riches de ce siècle. » Donc, à quelque part, Timothée était pour prêcher et avoir une influence sur la vie de riches, de personnes qui étaient riches. Le voyez-vous dans votre texte? Amen. Donc, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Les richesses de ce monde sont incertaines, frères et sœurs. Aujourd'hui, on peut dire, bien, ça va bien au Canada. Mais peut-être plus tard cette année, il va y avoir des choses qui vont changer. Ces richesses-là sont incertaines. Si on place notre foi dans nos avoirs, dans notre compte de banque, et si tout d'un coup, comme en Russie en ce moment, leur dollar ou leur rouble a chuté, et puis ça vaut pratiquement rien, et puis ils sont dans une grande dépression là-bas, et on peut voir que la richesse de ce monde, cette richesse-là, est totalement incertaine. Il n'y a pas de garantie que votre dollar va valoir un dollar demain matin. Vous comprenez ça? Parce que c'est un système mondain. Mais là où on peut avoir une certitude, c'est dans l'économie de Dieu. Gloire à Dieu, parce qu'on fait partie de son royaume. Et on peut opérer selon les lois du royaume et vivre la provision de Dieu. Donc, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions, ou pour votre très grand plaisir. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Il y a vraiment une onction ce matin pour vos finances, je peux vous le dire. Je ressens la présence de Dieu. Verset 18, je vais le relire. Recommande-leur de faire du bien. Comme on a fait la semaine passée, on a pris une offrande spéciale pour les démunis en Afrique, au Congo. Gloire à Dieu, on va reprendre une offrande aussi plus tard pour ce ministère-là. Mais recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor. Voyez-vous, pour l'avenir, on peut bâtir notre avenir aujourd'hui. Vous allez à la banque et puis ils vont vous parler comment vous pouvez préparer votre retraite. Mais moi, je peux vous partager aujourd'hui comment vous pouvez préparer votre retraite céleste. Amen. C'est plus profitable préparer cette retraite-là, parce qu'en fait, ce n'est pas une retraite, c'est l'éternité. Gloire à Dieu. S'amasser pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. La vie véritable se retrouve seulement en Jésus et dans son royaume. Votre foi dans votre argent aujourd'hui, bien, c'est une fondation incertaine. Mais la fondation divine est certaine. Gloire à Dieu. Et dans Bible du Sommeur, au verset 19, ça dit, « Ils s'assureront, ceux qui vont faire le bien, ceux qui vont placer leur foi en Dieu et non dans l'argent, ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. » Un beau capital, ça vous parle ici de votre maison céleste. Ça, c'est un beau capital. Avez-vous vu votre maison dans les cieux? Peut-être seulement dans la Bible, en lisant la parole de Dieu. Mais si vous avez été en esprit au ciel et vous avez vu votre maison, vous pouvez savoir, c'est un beau capital. N'est-ce pas merveilleux? En lieu sûr, saviez-vous que la Nouvelle Jérusalem, c'est un lieu de bénédiction où la malédiction ne peut pas entrer, où il n'y aura jamais de récession dans la Nouvelle Jérusalem, où le roi Jésus ne dira jamais, nous devons faire des coupures budgétaires. Et puis, finalement, aux noces de l'agneau, on va manger du ballonné. Non, pas du tout. Dans la cité céleste, c'est un lieu sûr. Un lieu sûr, parce que Dieu prend soin de nous et Dieu est tout puissant. Donc, vous pouvez marcher dans la paix ultime si vous faites partie du royaume de Dieu. Venez avec moi dans Philippiens 4 et on va aller au verset 6. Un texte que vous connaissez sûrement très, très bien. Vous savez, aujourd'hui, entendre un message comme ça, peut-être que vous dites, ça va bien. Aujourd'hui, au Canada, on est dans un des pays les plus riches au monde. Ça va bien, on est super heureux. Et puis moi, je ne suis pas vraiment inquiet parce que, regarde, on est bien organisé au Canada. Les gens les plus pauvres au Canada font partie des gens les plus riches au monde, n'est-ce pas? C'est vrai ça. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais les gens les plus pauvres au Canada font partie des gens les plus riches au monde. Amen. Il y a des gens qui vivent dans les rues, dans d'autres pays, qui dorment à terre, sur une terre tapée. Il y en a qui vivent comme ça, qui ont du mal à se trouver à manger. Mais au Canada, on mange tous. Gloire à Dieu. On mange des fois un peu trop même. Amen. On est dans un pays béni. Gloire à Dieu. Parce que les fondements, en passant, ont été établis sur la parole de Dieu. Nos racines, ce sont des racines chrétiennes dans le Dieu de la Bible. C'est pour ça que nous sommes bénis. Ne cherchez pas plus loin. La raison pourquoi le Canada est un pays béni, c'est parce que nous avons été fondés sur le psaume 72, verset 8. Gloire à Dieu, le nom de notre pays, le psaume 72, verset 8, a été le fondement de notre nation. Gloire à Dieu, c'est pour ça que nous sommes bénis, parce que nous avons honoré Dieu lors de l'établissement de ce pays. Gloire à Dieu. Mais je ne prêcherai pas sur le Canada aujourd'hui. Amen. Mais nous avons la bénédiction ici. Dans Philippiens 4, verset 6, ça dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Si vous êtes inquiet ou vous connaissez des gens même qui sont inquiets, peut-être des frères et des sœurs que vous connaissez qui sont inquiets. Vous pouvez leur partager ce verset-là. La Bible nous dit, si ça vous tente, ne vous inquiétez de rien. Si c'est facile et tout va bien au Canada, ne vous inquiétez de rien, parce que vous voyez avec vos yeux naturels que ça va bien. Si votre compte de banque déborde constamment, ne vous inquiétez de rien. Si votre business va super bien, ne vous inquiétez de rien. On a lu ce texte-là comme ça. Mais vous savez, le moment où l'inquiétude est une tentation, c'est quand ça va mal. C'est quand ça va mal, on a la disposition de s'inquiéter. On est là puis on se dit, ben là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et là, on commence à craindre ce que l'ennemi peut faire. En fait, on place notre foi dans la capacité de Satan au lieu de placer notre foi dans la puissance de Dieu. La foi, c'est croire en Dieu et relâcher notre foi, une force spirituelle qui déplace les montagnes. Je la place en Dieu, un Dieu où je suis certain qu'il va honorer sa parole. Mais l'inquiétude, c'est dire, « OK, Seigneur, tu es là, je sais, mais je vais placer ma foi, parce que la crainte, c'est la foi, en fait, mais c'est la foi pervertie qui est redirigée vers l'ennemi et ce que l'ennemi peut faire. » Et quand on fait ça, on ouvre une porte à l'ennemi, et puis c'est terrible, et c'est de la désobéissance. La parole de Dieu nous dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Et vous savez, c'est plus facile, vous le prêchez, que de le vivre. L'autre fois, ma fleur amée est arrivée à la maison un peu en retard à cause de son autobus. Il y a eu quelque chose, en tout cas des détails que je ne vous donnerai pas, mais elle est arrivée un peu en retard et puis j'étais inquiet parce qu'on aime nos enfants, n'est-ce pas? On aime nos enfants. Puis là, ma femme vient me voir et elle dit, fleur amée n'est pas arrivée, elle était 15 minutes en retard. Puis on dit, ben 15 minutes, 15-20 minutes en retard quand l'autobus est censé arriver à telle heure. Bien, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a manqué son autobus? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis peut-être, vous êtes là, 15-20 minutes, tu capotes, là, toi. Mais quand on aime nos enfants, comme nous, 15-20 minutes, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? On appelle l'école, on appelle les amis, on appelle les gens. Et puis j'étais dans ma cuisine, puis l'Esprit de Dieu me dit, ne vous inquiétez de rien. Je suis comme, c'est bien vrai, il faut que je mette en pratique quand j'en ai besoin, là. Pas juste quand c'est facile. Je suis comme, OK, Seigneur, c'est vrai. Je ferme la porte à l'inquiétude, mais je peux vous dire, c'est plus facile de vous le prêcher que de le vivre. Amen! Amen! Mais là, la Bible me dit, ne vous inquiétez de rien. C'est que là, ce que j'ai besoin de faire, quand c'est un moment pratique, là, la vraie vie, c'est que, OK, Seigneur, merci parce que je place ma foi en toi en ce moment pour Fleur Amée. Puis finalement, on a compris, puis c'est des détails assez simples, mais l'ennemi aimerait ça nous tourmenter. Parce que la crainte amène un tourment. Dans la Bible, dans King James, ça dit, « Fear involves torment ». Donc, la crainte implique le tourment. C'est ça que Satan veut faire. Il veut vous tourmenter. Il veut vous inviter à entrer dans mon jeu de la crainte et être tourmenté. Mais vous pouvez dire, non, moi, je suis un enfant de Dieu et je marche dans la paix parce que j'obéis à la parole que Dieu m'a donnée. Ne vous inquiétez de rien. Gloire à Dieu. Une autre chose pour vous garder dans la paix. Donc, premièrement, on se dit, OK, Seigneur, je veux vraiment marcher dans l'obéissance à ce niveau-là et refuser l'inquiétude. Mais l'autre chose aussi qu'on doit comprendre et croire, nous ne serons jamais des mendiants. Si vous connaissez la parole de Dieu, vous savez, peu importe ce qui peut se passer dans ce monde, je ne serai jamais un mendiant. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu. Venez avec moi dans le psaume 37, verset 25. Quand on sait, je suis un enfant de Dieu, gloire à Dieu, bien, ça veut dire que je ne serai jamais un mendiant, mais jamais. Alléluia! Le psaume 37, verset 25. Le psalmiste a dit ici, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. » Le juste. On parle ici de l'enfant de Dieu. Jamais on va retrouver un enfant de Dieu en train de quêter pour son pain, parce que son Père céleste va bien prendre soin de lui. Ici, on parle du juste, celui qui connaît les lois spirituelles de Dieu, va demander au Seigneur son pain. S'il est en besoin, il va dire, « Seigneur, on a besoin de la provision en ce moment, on a besoin de l'épicerie. » Gloire à Dieu. Et vous savez, Dieu va toujours entreprendre. Vous dites, « Ah, est-ce que Dieu va vraiment entreprendre dans des choses aussi simples, aussi petites que ça? » Absolument. Moi, je me souviens, ma tante Colombe, vous la connaissez peut-être, elle aime ça chanter des cantiques. Peut-être que vous ne la connaissez pas, mais c'est une sœur dans le Seigneur qui est au-delà de 80 ans. Et puis, dans sa simplicité, elle a demandé au Seigneur la provision. Était assez pauvre à l'époque, et puis était là avec ses enfants autour de la table. Puis elle dit, bien là, on va s'asseoir autour de la table parce qu'on va manger. On n'a rien à manger en ce moment, mais mon Dieu va pourvoir. Et puis, elle était là autour de la table, puis elle a demandé à ses filles, mais qu'est-ce que vous voulez manger? Puis les filles ont dit, on veut manger des pommes. C'est ça qu'on veut manger. C'est un drôle de dîner, ça, hein? Mais Dieu entend la prière des enfants. Et puis, il y a quelqu'un qui a frappé à la porte. C'était un vendeur de pommes. Il vendait des boîtes de pommes. Puis là, ma tante Colombe, elle voit cet homme-là qui arrive avec des belles pommes rouges. Elle aimerait ça les acheter. Elle m'a dit, mais monsieur, en ce moment, j'ai pas l'argent sur moi. Puis là, le monsieur dit, savez-vous, madame, je vais vous les offrir. Donc, ils ont demandé à Dieu des pommes. Dieu a envoyé quelqu'un qui frappait à la porte pour leur livrer des pommes. Gloire à Dieu! C'est le Dieu que nous servons. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous demandons à Dieu et puis Dieu va prendre soin de nous. Peut-être que vous dites aujourd'hui, ben moi, pasteur, moi, ça va tellement bien financièrement, je n'ai pas besoin d'un message comme ça. Mais gloire à Dieu, mais peut-être un jour, vous aurez besoin de ce message-là. Amen, je ne vous prophétise pas, mais peut-être un jour, vous aurez besoin d'avoir ces versets-là pour vous rappeler, je ne suis pas et je ne serai jamais un mendiant. Vous pouvez même prendre en note ces versets-là et les mettre dans votre Bible. Et quand vous avez des défis de foi au niveau de vos finances, vous pouvez dire, le Seigneur a dit que jamais il va m'abandonner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu prend. Et je suis certain qu'il y a plusieurs frères et sœurs ici que vous avez déjà reçu des miracles comme ça. Gloire à Dieu. Des miracles que vous avez priés puis Dieu a entrepris. Parce que notre Dieu est notre Père. C'est ça, quand on comprend mon Dieu, là, c'est mon papa. C'est mon Père qui m'aime. Il prend soin de moi. Gloire à Dieu. Amen. Là, vous dites, oui, mais s'il y a une crise économique, là, est-ce que ces versets-là sont encore applicables aujourd'hui? C'est bien beau, là, on en parle aujourd'hui, mais si jamais il y avait une crise économique, est-ce qu'on pourrait vraiment croire que nous, on va être totalement épargnés quand le restant de la planète y passe? Admettons, c'est une crise mondiale, là. Il y a toutes sortes de voies de crainte. Puis aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous dire tel ou tel scénario. Je suis simplement là pour vous partager le cœur de Dieu, un cœur d'amour pour vous. Vous rassurer, peu importe ce que vous entendez, vous pouvez croire que Dieu est là. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans Genèse, venez avec moi dans la Genèse, chapitre 26. Je vais vous répondre concernant cette question-là. Parce qu'on peut se dire, est-ce que dans un temps de famine, est-ce qu'on peut être rassuré, est-ce qu'on peut avoir une conviction que Dieu va prendre soin de nous à ce niveau-là? Bien, vous savez, Dieu nous donne toujours la réponse. Moi, je suis tellement content d'être un enfant de Dieu. Je suis tellement content. Des fois, les gens pensent qu'être un enfant de Dieu, c'est d'être limité, c'est un moins. Ah, est-ce que tu es obligé de faire ci, est-ce que tu es obligé de faire ça? Moi, être un enfant de Dieu, c'est de recevoir l'amour de mon Père qui prend soin de moi, qui m'a délivré des flammes de l'enfer parce que c'est là où je m'en allais, qui m'a arraché du danger, qui a dit « Je t'aime tellement, je vais t'offrir une vie éternelle où tu ne mourras jamais, où tu vas passer l'éternité dans ma présence. Je vais essuyer toutes les larmes de tes yeux, tous les soucis de ta vie. Tu peux te confier entièrement en moi. Je t'aime avec un amour éternel. En plus, je t'ai tellement aimé que j'ai envoyé mon Fils Jésus mourir sur la croix pour payer ta dette de péché. C'est comme ça que Dieu nous aime. Gloire à Dieu. Pour moi, ce n'est pas un moins, c'est un plus, mais un plus extra large en plus. Amen. Gloire à Dieu. Genèse 26 nous dit, au verset 1, Genèse 26, verset 1, « Il y eut une famine dans le pays. » Dites famine. Famine, ce n'est pas un moment d'abondance, n'est-ce pas? C'est-à-dire, « Il y eut une famine dans le pays. » On va aller au verset 12 maintenant. Mais il y avait un homme qui s'appelait Isaac, un enfant de Dieu. Isaac, un fils d'Israël. Ça nous dit ici, « Isaac sema dans ce pays. » Un pays de famine. Il recueillit cette année le centuple. Pourquoi pensez-vous? La Bible nous dit, car l'Éternel le bénit. Voyez-vous, quand Dieu nous bénit, même si on est dans un pays de famine, Dieu prend soin de nous. Remarquez bien, c'est vraiment la vérité ici. Des fois, les gens disent, ouais, mais c'est écrit dans la Bible, mais regarde, on vit les deux pieds sur terre. Pensez-vous qu'Isaac, il volait sur la terre? Il y avait les deux pieds sur terre, là. Puis il y avait une véritable famine dans le pays. Pourtant, ça dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le béni. Cet homme devint riche. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont peur du mot « riche » dans l'Église. Avez-vous peur du mot « riche » ? Moi, là, quand je lis ça dans la Bible, ça dit « devint riche ». Mais des fois, les gens ont vraiment peur du mot « riche ». Je vais me stationner ici quelques instants. Je vais vous parler de quelque chose. Vous savez, au ciel, mon pays d'origine. Ben, c'est mon pays d'adoption, ou je ne sais pas trop comment on peut dire, mais ma résidence éternelle. C'est pas pauvre là-bas. Mon Dieu ne nous sert pas du ballonné, comme je vous ai dit. Mais au ciel, c'est de la richesse. Bon, là, on peut se poser la question. Il y a des gens qui prêchent la prospérité. Toi, est-ce que tu fais partie de ceux qui prêchent la prospérité? Je peux vous dire qu'il y a un déséquilibre dans le corps de Christ. Un déséquilibre sur les finances. Et pourtant, Dieu est concerné pour votre vie. Il est concerné pour vous. Il y a un déséquilibre où on prêche l'argent pour un gain personnel. On prêche l'argent, on prêche la richesse pour un gain personnel. Ça, c'est le mauvais message de la prospérité. Savez-vous pourquoi on entend très peu de prédications sur la prospérité dans le monde francophone? Parce que dans notre Bible francophone, on a remplacé le mot « prospère » ou « prospérité » par le mot « paix » ou « shalom ». En fait, qui serait en hébreu « shalom ». Dans notre Bible francophone, à chaque fois, on voit en anglais le mot « prosperity » ou « prosper », c'est le mot « paix ». Voyez-vous, il y a une différence dans notre compréhension. Donc, on écoute un prédicateur américain qui va nous prêcher des versets de la parole de Dieu. En fait, il va prêcher le mot « shalom ». Le mot « shalom » veut dire « rien de manquant, rien de brisé ». Comprenez? Donc, quand il n'y a rien de manquant dans vos vies, vous faites dire « l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Vous me suivez? Donc, le déséquilibre, c'est de prêcher l'argent pour un gain personnel. Ça crée de l'avarice. En fait, les gens qui écoutent ce message-là l'écoutent avec un cœur qui aime l'argent au lieu d'aimer Dieu. De l'autre côté, il y a aussi, on appelle l'évangile de la pauvreté. Et on n'entend pas parler de l'évangile, on n'entend pas parler contre le message de la pauvreté. C'est un message qu'on a célébré dans nos églises. Mais vous savez, il y a vraiment deux messages en opposition et Dieu nous appelle à être dans le milieu, à être dans la vérité. Tout simplement. Vous comprenez? Quand on lit « shalom » dans la Bible, moi, je crois ce que ça veut dire. Quand Dieu nous parle qu'il veut que son shalom s'installe dans nos vies, rien de manquant, rien de brisé, ça veut dire que Dieu veut rendre l'homme, l'enfant de Dieu, entier en lui, dans ses finances, dans son corps, dans ses relations, dans sa vie spirituelle, à tous les niveaux, Dieu est concerné. Dieu vous aime. Vous comprenez? Donc, il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont attaquer le message de la prospérité en posant la question, « est-ce que tu crois dans l'évangile de la prospérité? » Vous pouvez répondre, « Est-ce que vous croyez dans l'évangile de la pauvreté? » Parce que c'est aussi terrible que le message à l'extrême de la prospérité. Parce que Satan veut garder l'Église de Jésus-Christ dans la pauvreté. Parce que de un, Satan est méchant. Satan aime ça voir les gens qui ont du mal à arriver, qui ont du mal à se nourrir, qui ont du mal à se vêtir. Satan est méchant et puis il aime ça voir les gens souffrir. Vous pouvez demander aux gens dans le tiers-monde, est-ce que vous croyez que c'est la volonté de Dieu que vous voyez votre enfant en train de mourir de faim? Ça, c'est le cœur de Satan, frères et sœurs. Quand vous voyez des émissions de télévision et vous voyez des enfants qui sont mal nourris, qui sont en train de mourir de faim, vous savez, ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi ce matin? Ce n'est pas le cœur de Dieu. Donc, ça, c'est l'évangile de la pauvreté. Et on pourrait en dire longtemps et longuement sur le message de la pauvreté, que la pauvreté nous rend saints. C'est faux. C'est le sang de Jésus qui nous rend saints, qui nous purifie. Donc, la pauvreté ne devrait pas être exaltée et la prospérité à l'extrême ne devrait pas être exaltée non plus. Ce qu'on devrait tout simplement dire, quand la Bible nous parle du shalom de Dieu, et que le shalom est pour nous, moi, je dis oui et amen. Je me mets en accord avec la parole de Dieu. Bon, j'ai pris un petit détour, mais Genèse 26, verset 12, ça dit, « Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Bon, on va le relire. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs, aussi les Philistins, donc les inconvertis ici, lui portèrent-ils envie. Donc, il a fait des jaloux parce que Dieu l'avait tellement béni sur le plan économique. Vous voyez ça? Est-ce que c'est dans la Bible? Vous venez de le lire avec moi, vous voyez ça? Que quand Dieu a béni Isaac pendant un temps de famine, Dieu le bénit et puis il prospérait économiquement, même si tout le monde avait des difficultés. Ceci veut dire, si vous êtes un commerçant et tout le monde autour de vous, vous avez un type de commerce et tout le monde font faillite, vous ferez partie de ceux qui vont récolter et aller de gloire en gloire sur le plan économique. Voyez-vous, il y a une différence pour l'enfant de Dieu. Si vous ne croyez pas ce que je viens de vous partager, vous ne croyez pas la Bible, et puis il n'y a pas de différence entre vous et les païens. Mais il y a une différence entre nous et les païens, enfants de Dieu, si nous croyons la Bible. Comme Pasteur Jérémie a dit dans le temps de la louange, si on donne nos paroles à Satan, puis on dit « Ah, mon Dieu, tout le monde font faillite, bien moi, je suis le prochain en ligne », si vous vous accordez avec les gens de ce monde, vous vous accordez légalement avec les décrets de votre bouche, bien, vous allez faire faillite parce que vous le déclarez qu'il en soit ainsi. Amen, vous comprenez? Mais si tout le monde est en train de faire faillite dans votre type de business, je vous parle comme ça aujourd'hui pour les commerçants, vous pouvez déclarer, « Oh, merci Seigneur Dieu parce que tu fais l'exception pour moi. Alléluia, je vais semer dans ce pays de famine et je vais récolter au centuple comme tu as fait avec Isaac parce que tu ne fais pas d'exception de personne. » Alléluia, gloire à Dieu. Amen, Dieu est bon. Donc, nous ne serons jamais des mendiants. Et puis, gloire à Dieu, il y a la malédiction qui règne dans le système de ce monde. Ça, c'est une des choses qu'on doit comprendre. Si vous dites, OK, moi, je comprends ces choses-là. Est-ce que c'est vraiment important de parler de ces choses-là aujourd'hui, quand on considère les difficultés dans le monde? Est-ce qu'on a besoin de parler d'argent dans cette saison où les gens vont de pire en pire, où il y a des atrocités? Je peux vous dire, nous sommes dans une saison spirituelle où nous devons vraiment saisir les promesses de Dieu parce que Dieu veut se glorifier présentement. Par exemple, comme l'école du ministère surnaturel, on pourrait dire, est-ce que c'est vraiment important maintenant de prophétiser sur les gens? Est-ce que c'est vraiment un besoin pour l'Église? Oui, c'est un besoin. C'est un besoin parce que les gens se meurent et les gens ont besoin d'entendre parler de Dieu et ont besoin de recevoir la parole de Dieu, une parole spécifique pour leur vie, pour recevoir la parole. J'aimerais ça partager juste un témoignage que j'ai eu cette semaine. Vendredi soir, j'étais à la rencontre des femmes de justice. Alléluia! Bonne réunion de prière. Hein? Et puis, il y avait une sœur, Manon, qui me racontait que son fils est en Nouvelle-Zélande. Et puis, il avait reçu de Dieu une parole qu'il devait donner une fleur à une jeune fille. Et puis, vous avez dit, ah, ben ça, c'est une parole assez charnelle, mais c'est vraiment spirituel. Il était avec son partenaire en évangélisation. Il a reçu de Dieu, on va remettre une fleur à une jeune fille. Puis, ils sont, OK, ils partent comme ça. C'est une parole simple, mais ils quittent. Puis ils s'en vont avec cette mission, je vais aller bénir quelqu'un. Et puis, ils ont reçu aussi dans leur esprit, je pense que c'était le partenaire en évangélisation qui avait reçu, que cette personne-là aussi était musicienne. Bref, il arrive et puis il rencontre une femme sur la rue et puis il se tourne vers elle, puis il lui remet une rose et puis il commence à parler de la musique. Elle commence à pleurer et puis est touchée, rencontrer la part de Dieu, il l'évangélise, elle accepte le Seigneur, gloire à Dieu. Bon, on dit, ben là, c'est une fleur. Puis une parole comme ça. Oui, mais Dieu aime ça, que les gens discernent, qui est vraiment concerné spécifiquement pour leur vie. Vous comprenez? Donc, quand on a une parole spécifique, c'est différent que d'arriver avec une Bible qu'on donne. On peut faire ça, donner une Bible absolument, gloire à Dieu. Mais quand on a l'onction de Dieu qui vient, on reçoit de Dieu des paroles pour bénir les gens, bien là, on peut récolter les âmes avec l'aide du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est important d'être préoccupé de ces choses-là aujourd'hui? Le ministère prophétique, est-ce que c'est important de parler de finances? Certainement parce que quand on a les finances dans le royaume de Dieu peut avancer. Donc, toutes les choses du royaume, on doit continuer à s'occuper de ces choses-là, peu importe ce qui se passe dans notre monde. Vous comprenez? Donc, on doit continuer à cultiver les enseignements de la parole de Dieu pour que le peuple de Dieu puisse avancer. Satan veut qu'on soit écrasé dans le doute, écrasé dans le découragement, écrasé dans la pauvreté et se dire « Ah, oh, ben je ne peux pas avancer. » Mais Dieu veut vous délivrer de ces choses-là. Vous n'êtes plus sous la malédiction, mais aujourd'hui, en Christ, vous avez été racheté de la malédiction pour être béni. Gloire à Dieu. Donc, la bénédiction est disponible pour nous, les enfants de Dieu. Mais une des choses qu'on doit vraiment comprendre, si vous dites « mais je ne comprends pas pourquoi moi j'ai des problèmes financiers », une des choses que vous devez comprendre, c'est que la malédiction règne dans notre monde. Vous allez tous en accord avec moi. La malédiction, le manque, règne dans le monde, dans le système de ce monde. Et puis, même si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez être touché ou influencé ou atteint par la malédiction, si vous ne vous mettez pas sous le parapluie de la bénédiction de Dieu. C'est une chose, c'est comme s'il pleut dehors, puis vous dites, ben Dieu a fait une exception pour moi, mais si vous sortez dehors, puis il fait une tempête ou il pleut, vos cheveux vont être mouillés. Même si vous êtes chrétien, vous comprenez? Vous dites, mais je suis un enfant de Dieu, pourquoi Dieu n'a pas fait en sorte que, tu sais, que juste sur moi, là, il n'y aurait pas de pluie, là, parce que je suis un enfant de Dieu, je crois dans le surnaturel. Oui, peut-être Dieu pourrait le faire. Mais habituellement, Dieu s'attend qu'on va mettre un parapluie, peut-être, au-dessus de notre tête. Vous comprenez? Donc, Dieu nous enseigne, voici mon chemin, voici les lois de mon royaume, mettez-les en pratique et vous allez être sous le parapluie de ma bénédiction. Bon, c'est ça qu'on veut voir ensemble. Il y a un parapluie disponible pour l'enfant de Dieu. Mais pour les gens à l'extérieur, ils vivent la malédiction. Si le chrétien dit, ben moi, je ne veux pas le parapluie, mais le chrétien va vivre la pluie comme tout le monde. Voyez-vous? Gloire à Dieu. Là, j'avais vraiment à cœur de vous lire le psaume 127, le verset 2. J'avais tellement envie, j'ai trouvé ça tellement bon que je l'ai imprimé dans 5 versions. Parce que ça va aider des gens. Le psaume 127, verset 2. Je vais vous lire dans la Bible de la liturgie que je ne connais pas, mais j'ai trouvé ça sur Internet, puis j'ai plein de versions. On a dans l'idée qu'on doit travailler fort pour gagner notre pain. Si vous croyez ça, j'aimerais vous encourager, allez écouter mon enseignement. J'ai fait une série qui s'appelle « La bénédiction ». La bénédiction, tout simplement, vous écoutez ça et on décortique la bénédiction de Dieu qui est pour nous. Parce que si vous croyez qu'on doit travailler pour gagner notre pain, vous avez la pensée de ce monde, vous avez la pensée d'Adam qui était sous la malédiction, mais Christ nous a rachetés. Aujourd'hui, on travaille exclusivement pour Dieu. Amen. On travaille pour Dieu et Dieu prend soin du restant. Mais dans le psaume 127 et le verset 2, ça dit « En vain, tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos, tu manges un pain de douleur. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. » Voyez-vous, quand la bénédiction de Dieu s'installe sur vous, pendant que les autres se réveillent très de bonne heure pour travailler, se couchent très, très tard pour travailler, le juste, l'enfant de Dieu, se repose. Et puis, ça dit, Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Voyez-vous, ça c'est bon. Ça veut dire, c'est pas par vos forces personnelles que vous allez prospérer, que vous allez avancer, c'est en plaçant votre confiance en Dieu. C'est la foi que vous avez besoin. Amen. Je vais vous lire dans la Bible, 2 21. « C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. » Si vous ne croyez pas, là, au moins pouvez-vous croire la Bible? Ma mère a dit « Oui! » Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je voulais vous l'imprimer parce que si vous ne comprenez pas dans une version, peut-être avec 5-6 versions, vous allez dire « yes ». Moi, j'aime ça. Il en donne autant à ses bien-aimés. Savez-vous, vous êtes le bien-aimé de Dieu? Dieu vous aime. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Gloire à Dieu. Bible des peuples. « En pure perte, vous devancez le matin et retardez au soir le repos. Faut-il tant de peine pour le pain que vous mangez? » Dieu le donne à ses bien-aimés et ils dorment. Bon, c'est donc une bonne version, ça. C'est inutilement, dans la nouvelle Bible seconde, c'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard, que vous mangez le pain de la peine. Le pain de la peine. Combien d'entre vous, vous aimez ça, acheter ça à l'épicerie? Le pain de la peine. J'aime pas ça, cette sorte-là, elle est pas bonne. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Alléluia, ça vous donne le goût d'aller vous coucher, là. La Bible du Sommeur. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Il est vain. Dites vain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Alléluia. Parole de vie, dernière version. Pour rien, dites pour rien. Vous vous levez très tôt. Pour rien. Vous vous couchez très tard. Et pour rien. Vous vous fatiguez à gagner votre nourriture. Aïe, aïe. Alléluia. Le Seigneur en donne autant à son ami très cher pendant qu'il dort. Voyez-vous ce qu'on voit ici? Dieu, quand il fait partie de l'équation, ça change tout. Alléluia. Bon, gloire à Dieu. J'avais le goût de vous lire ça dans plein de versions. Ça me bénit, moi, de savoir, de connaître la vérité, connaître le cœur de mon Dieu. Amen. Vous êtes toujours avec moi, frères et sœurs? Gloire à Dieu. Bon, ben si j'ai compris que Dieu fait la différence, même quand je dors, mes choses progressent et avancent. Même quand je dors, que Dieu s'occupe de mon dossier. Gloire à Dieu, je peux me reposer en paix. Mais le diable ne veut pas que vous soyez dans un repos. Au contraire, il veut naître sur vous, puis pendant que vous dormez, vous êtes là, puis vous êtes inquiet. Comment est-ce que je vais faire pour payer telle affaire, telle ceci, telle... C'est ça qu'il veut pour vous. Ça, c'est la destinée du diable, vous tourmenter. Mais il faut dire, non, je suis un enfant de Dieu, et pendant que je vais dormir, Dieu va faire des choses. Dieu va travailler dans ces dossiers-là. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu va me dire par son esprit les choses que j'ai besoin de faire pour coopérer avec l'esprit de Dieu pour que ces choses-là puissent arriver aussi. Parce que Dieu va vous donner des stratégies divines. Alléluia. Il va vous démontrer, vous donner des pistes d'atterrissage pour la bénédiction de Dieu. Peut-être vous dites, oui, mais là, j'ai tel problème. C'est un vrai problème, pasteur, là. Je ne peux pas juste me coucher. Oui, vous pouvez juste vous coucher. Mais vous pouvez aussi prier et dire, Seigneur, voici ce vrai problème. Mais je te présente ce problème-là parce que dans ta parole, tu dis, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Donc, je veux me décharger sur toi. Seigneur Dieu, je te remets mon souci. Et Seigneur, je sais que tu es capable d'intervenir. Et là, Dieu va dire, ben, je suis très content que tu m'aies demandé ce conseil-là parce que oui, justement, je voulais te donner cette stratégie divine. Voici ce que tu dois faire. Et là, vous vous réveillez. Dieu vous a parlé dans un rêve surnaturel. Il vous a dit exactement ce que vous avez besoin de faire. Vous allez le faire. Et là, ce qui va se produire, la bénédiction de Dieu va se manifester. Voyez-vous, quand vous êtes en relation avec l'Esprit de Dieu, en communion avec lui, il va vous parler. Alléluia! Moi, je trouve ça tellement merveilleux d'avoir Dieu, le Créateur, comme étant mon meilleur ami. C'est le meilleur ami au monde. Jamais il me laisse tomber. Jamais il va me trahir. Jamais il va me détruire, mais mon ami, mon meilleur ami, m'aime avec un amour éternel. Gloire à Dieu. Et c'est votre meilleur ami aussi. On travaille souvent tout seul, sans lui, puis on dit, oui, Seigneur, je sais que tu es là dimanche matin, mais là, regarde, c'est lundi matin, puis check, là, il faut que je m'organise. Mais non, dites, Seigneur, j'appelle l'abondance dans mon commerce parce que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. L'Éternel me bénit, gloire à Dieu. La bénédiction de l'Éternel me bénit. Alléluia, sur ma tête. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes toujours là? Vous croyez toujours? Bon, là, vous dites, OK, mais comment faire pour connecter mes finances personnelles à la bénédiction du royaume? Vous l'avez montré, là, qu'on peut l'avoir dans notre vie. Mais moi, je vais vous dire comment j'ai appris ces choses-là. Ça a été très, très simple. J'étais un enfant. Comme vous savez, j'ai été élevé chrétiennement. J'allais à l'école du dimanche depuis que je suis au monde. Bien, quand j'ai pu comprendre, parce qu'avant ça, j'étais dans les bras de ma mère à l'église, sûrement. Mais j'étais dans la pouponnière et tout ça. Et je me souviens que j'allais à l'église, j'avais toujours mon 25 sous. Puis j'ai un souvenir, c'était sur la rue 203 rue Robinson. À l'époque, c'était le pasteur Yvon Gendron qui était pasteur. Et puis, on avait une église. Aujourd'hui, c'est une boulangerie, cette église-là. Mais en tout cas, c'est toute une histoire. Mais en gros, cette église-là, c'était une église où j'ai grandi pendant des années de temps. Et puis, quand c'était le temps d'aller à l'école du dimanche, on descendait en bas. Puis, je me souviens encore, il y avait une table et puis on était assis autour de la table. Puis, quand j'arrivais, je mettais mon 25 sous dans le milieu de la table. Puis là, c'était mon offrande à Dieu. J'étais enseigné comme ça. Et mon offrande, ce que le Seigneur m'a enseigné concernant la dîme, mes parents m'ont enseigné, sur chaque dollar, il y a 10 cents qui appartiennent au royaume de Dieu. Moi, j'ai entendu ça. OK, sur un dollar, il y a 10 cents qui appartiennent au royaume de Dieu. Et puis, j'ai compris ça. comme un enfant. Et j'ai dit, oui, Seigneur, je veux marcher dans l'obéissance. Et mes parents m'ont dit, le discerne, ça s'en va pour l'église locale. Ce discerne-là va prendre soin du royaume de Dieu sur la terre. Et puis un jour, on va être dans le royaume éternel de Dieu. Mais pour le moment, Dieu, quand il nous donne la provision, il nous appelle à lui mettre une portion de côté. En fait, le 10 sous, ce n'est pas ton argent à toi, c'est l'argent qui appartient à Jésus. Si tu le prends, tu es en train de voler Dieu. Puis quand j'étais petit, j'ai dit, je ne veux pas voler Dieu. Moi, j'ai été enseigné comme ça, et puis c'est ça que j'ai fait toute ma vie. Même j'étais dans une église pendant un temps qui ne croyait pas dans la dîme, mais parce que je croyais ce que la Bible disait dans Malachie, puis je l'ai toujours fait parce que ce n'est pas parce que l'église n'avait pas cette conviction-là que tout d'un coup la Bible s'évaporait puis que le conseil de Dieu changeait. Je savais, non, ça appartient à Dieu, donc je donnais ma dîme dans une église qui ne croyait pas dans la dîme. Comprenez? Donc, on ne le fait pas parce qu'on veut plaire aux hommes. Il y a des gens, des fois, qui vont remettre leur dîme pour plaire aux hommes, mais ils n'ont rien compris. On le fait parce qu'on veut honorer Dieu. La dîme, c'est 10%, oui, c'est ça que la parole de Dieu nous dit, et ce 10%-là, c'est pour honorer le Seigneur. Ce n'est pas une dette, c'est une déclaration, je fais partie de ton royaume, Seigneur. C'est mon allégeance à ton royaume. Lorsque je remets ça, je dis, Seigneur, c'est toi le Seigneur de ma vie et le Seigneur de mes finances. Et je choisis d'aller me placer sous le parapluie de ta bénédiction. Et je sais que ça va être plus facile pour moi de vivre avec 90% de mon argent qui est sous le parapluie de la bénédiction que 100% de mon argent qui est en dehors de ce parapluie-là où il va y avoir toutes sortes de problèmes qui vont venir contre moi. Donc, j'ai été ancien comme ça et c'est juste des années plus tard, quand j'étais adulte, que j'ai entendu dire que c'était une loi et que c'était légaliste. Sauf que là, je me suis posé des questions. Ah oui, comment ça, c'est pas vrai ça, ce que la Bible dit dans Malachie? Non, ça c'est dans l'Ancienne Alliance, c'est légaliste enseigner ça. Donc j'ai commencé à examiner tout ça. Et puis j'ai découvert dans Genèse, en fait, vous pouvez même le prendre en note, dans Genèse chapitre 14, versets 18 à 20, j'ai découvert ici que en fait, la dîme était là avant la loi. Je vais vous lire le texte. « Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc, on voit ici que la dîme était un principe économique du royaume de Dieu, même avant la loi. Donc, on comprend tout simplement que c'est faux, les arguments des gens qui disent « Non, il ne faut pas donner notre dîme. » En fait, ils ont raison, on ne donne pas notre dîme, on remet notre dîme. On remet notre dîme, pourquoi? Parce que ça ne nous appartient pas. C'est l'argent que Dieu nous donne pour remettre à son royaume, pour que son royaume puisse avancer. Tout simplement, donc, on ne donne jamais notre dîme, on remet notre dîme qui appartient à Dieu. Et il y a des gens, des fois, qui vont dire, « Oui, mais sommes-nous obligés de faire ça? » Absolument pas. Vous n'êtes pas obligé d'honorer Dieu dans vos finances. Vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. En aucun moment, est-ce que j'ai demandé à quelqu'un, « Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. » Jamais, parce que c'est une chose personnelle. C'est si on veut honorer Dieu avec nos finances. Parce que si vous le faites à cause, vous vous sentez obligé, vous le faites d'une mauvaise façon et Dieu connaît votre cœur. Vous comprenez? Donc, une des choses ici, on peut se poser la question, la dîme, est-ce que c'est encore pour aujourd'hui? C'était avant la loi, pendant la loi et après la loi. Si vous avez des questions, vous pouvez aller voir aussi mon enseignement où j'ai passé pendant 10-15 minutes, j'ai décortiqué tous les arguments sur l'émission sur enseignement.com qui s'appelle « Pasteur, j'ai une question ». Et j'ai été le pasteur béni qui a pu répondre à cette question et avoir les arguments de tout le monde. Mais savez-vous ce que j'ai remarqué? Les gens qui s'opposent beaucoup vont dire ceci. Nous sommes sous la grâce aujourd'hui, donc on n'est plus obligé de remettre notre dîme. Mais quand j'ai commencé à étudier un petit peu pour faire les recherches, pour voir mais pourquoi les gens s'opposent à la parole de Dieu à ce niveau-là, j'ai vu qu'il y avait toujours un résultat final. C'est que ces gens-là n'étaient pas là vraiment pour défendre l'intégrité biblique. Mais en fait, ils défendaient leur droit de garder, de retenir. En fait, c'était l'avarice. Parce qu'en aucun moment, j'ai vu une personne qui disait, « Je ne remets pas ma dîme, mais à cause, je suis sous la grâce, maintenant je donne plus. » J'ai jamais rencontré une personne qui disait, « Non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. » J'ai jamais rencontré vraiment une personne qui disait, parce que si on est sous la grâce, on dit, « Ah ben, vu que je suis sous la grâce, maintenant c'est beaucoup plus. » Mais vous savez, ça, les gens qui veulent s'argumenter, on les laisse faire parce que, puis en passant, si vous m'écrivez, soyez bénis, je vous aime, mais ça ne changera rien dans ma vie. Moi, je crois ce que Malachie dit, mais je vais vous le lire aussi, mais peu importe vos opinions, je vous bénis au nom de Jésus. Mais ce que je veux vous dire, moi, je crois ce que Dieu a dit, et je l'ai vu, j'ai vu le Seigneur intervenir. J'ai eu des gens dans mon bureau même. Moi, humainement, admettons, il y a quelqu'un qui vient dans mon bureau, j'ai eu des couples des fois qui me disaient, on a des problèmes financiers, on se sent très, très pauvre. Et puis là, puis on veut, on aimerait ça bénir Dieu, mais on n'est pas capable, on est incapable en ce moment parce qu'on a ci, puis on a ça. Puis des fois, humainement, j'aimerais ça dire, ah, oh, ben regardez, donnez rien, c'est correct, donnez rien. Mais en même temps, dans mon esprit, je sais, si je leur dis ça, en fait, ils sont pauvres parce qu'ils ne marchent pas dans l'honneur au niveau de la dîme, parce qu'ils sont encore à l'extérieur du parapluie. C'est pour ça. Donc, il y a des gens qui disent, « Ben moi, je ne peux pas le faire parce que je suis trop pauvre. » Mais à cause, vous ne le faites pas, vous êtes pauvre. Comprenez-vous? Donc, vous êtes dans un cycle. Le moment que vous dites, « Non, non, moi, je vais obéir la parole de Dieu et je vais entrer sous le parapluie. » C'est là où vous verrez un changement. Et j'avais envie de dire à ce couple-là, une fois, écoutez, est-ce que c'est correct? Mais je ne pouvais pas le faire parce que je ne peux pas contredire ce que Dieu dit. Et ce que Dieu m'avait inspiré cette fois-là, je vais vous dire, parce que je voulais que les gens comprennent. J'ai dit, écoutez, je crois tellement dans ce que je vous dis. Vous avez besoin de commencer à remettre au Seigneur ce qui lui appartient pour dire, Seigneur, c'est ton royaume que je recherche en premier. Ce n'est pas mes besoins personnels, c'est ton royaume. Puis je sais, si je prends soin de ton royaume, toutes ces autres choses vont être ajoutées. Là. Tu vas t'occuper du restant. Mais quand là, j'ai dit ça, j'ai dit, je comprends votre niveau de foi en ce moment, mais ce que je vais faire, je vais donner le montant de votre dîme. Dites-moi le montant et je vais vous donner cet argent-là que vous pourrez prendre pour donner à l'Église. Ça va donner votre argent. Je vous le donne, là. Ça va donner votre argent. Vous avez le choix, soit honorer Dieu ou manger votre semence. J'ai dit, je veux vous donner pour vous donner l'opportunité de mettre Dieu à l'épreuve. Parce que c'est ça qu'on lit dans Malachie. Mettez-moi à l'épreuve pour voir si je n'ouvrirai pas sur vous les écluses des cieux. Ça fait là, il est assez surpris, mais j'espère que je crois dans ce que je vous dis. Ça fait que j'ai dit, je veux vous le donner. Et savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de le semer, de remettre au Seigneur ce qui lui appartenait. Et puis après, ils m'ont dit, pasteur, on a une percée. Bien, gloire à Dieu. On a une percée, mais je ne comprends pas comment ça change. C'est parce que là, vous avez été connecté à la bénédiction. On est béni dans le bien-aimé spirituellement. Mais quand on parle de l'économie, c'est comme si vous branchez, vous vous connectez. Si vous laissez vos finances à l'extérieur du royaume de Dieu, vous allez être sujet à la malédiction. Et croyez-moi, vous êtes libre. On est tous libres devant Dieu de faire ce qu'on veut. Mais moi, j'ai été enseigné comme ça quand j'étais jeune. J'ai toujours cru là-dedans. Je n'ai jamais arrêté. Puis ce n'est pas gloire à moi. C'est juste, ben je sais, ça appartient à Dieu. Je vais vous lire dans Malachie. Venez avec moi dans le dernier livre de l'Ancien Testament. Puis comme je vous dis, si vous avez des questions, là, allez entendre l'enseignement où je vais en profondeur. Parce que ce matin, ce n'est pas l'objectif. Mais je ne vous ferais pas une faveur si je ne vous enseignais pas le conseil de Dieu sur les dîmes. Et puis, vous savez, la parole de Dieu nous dit qu'il y a trois avenues pour les dons. Il y a des gens qui disent, on donne selon notre cœur. Ça concerne les offrandes. Donc si, par exemple, comme Franco Mission, on a passé une offrande d'amour pour les gens au Congo, bien là, quand on fait une semence comme ça, ça concerne les offrandes. Donc, on donne selon notre cœur. Mais la dîme, c'est toujours la même chose pour tout le monde. C'est toujours chaque 10 sous d'un dollar appartient au royaume de Dieu. Donc, on va aller dans Malachie. Et je vais aller... OK, on va commencer. Je vais aller au verset 8. Un homme... trompe-t-il Dieu? Ah, j'ai dit verset 8 de chapitre 3, Malachie 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dieu répond ici, dans les dîmes et les offrandes. Voyez-vous, il y a une différence entre les deux. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Voyez-vous, il dit « Mettez-moi à l'épreuve. » C'est la seule place dans la Bible où Dieu dit « Mettez-moi à l'épreuve, comme ce couple qui ont remis la dîme que je leur avais donnée. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. » Savez-vous, le diable veut vous dévorer. Il veut vous garder dans la pauvreté. ne serais pas votre ami si je ne vous le disais pas, frères et sœurs. Satan veut vous dévorer. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent, oui, ils tentent Dieu, ils échappent. Là, je pourrais continuer. Mais il y a une différence pour nous, frères et sœurs. Ici, ça nous dit que même, vous savez, le peuple d'Israël marche encore aujourd'hui selon ces lois-là, ceux qui honorent la parole de Dieu dans le peuple juif. Ils marchent encore en obéissance. Et avez-vous remarqué que ceux qui marchent selon les principes de Dieu, les principes économiques du royaume de Dieu, prospèrent? Avez-vous déjà entendu parler du peuple, le peuple juif comme étant un peuple riche? Pourquoi pensez-vous? C'est une coïncidence? Honnêtement, pensez-y, là. Pourquoi que les Juifs sont connus mondialement comme étant un peuple riche? C'est simple, parce que le peuple d'Israël met en pratique la parole de Dieu à ce niveau-là. Et nous, les chrétiens, malheureusement, on a mis de côté, disant, bien, c'était sous la loi. Non, c'était avant la loi, pendant et après. C'est un principe économique du royaume de Dieu pour qu'on se connecte à son royaume au niveau de nos finances. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Donc, je vais vous lire quelques versets ici pour vous aider. Dans Proverbes 3, versets 9 et 10, ça dit, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers, ou le lieu de vos économies, seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. » Si vous pensez, ben, « Est-ce que c'est vraiment possible pour moi? » Je peux vous dire, tout est possible à celui qui croit. C'est une question de foi, une question d'honneur. Dans Proverbes 11, verset 24, dans Bible, Parole de vie, ça dit « Certains donnent beaucoup et deviennent plus riches. » La générosité, c'est ça que ça crée. Des semences appellent une récolte. D'autres gardent trop pour eux et deviennent pauvres. Quand on retient, c'est ça que la Bible dit. Vous voyez, c'est écrit « D'autres gardent trop » ou dans d'autres versions, ça dit « Épargne à excès ». Donc, d'autres gardent trop pour eux et deviennent pauvres. Donc, ils ne deviennent pas plus riches en épargnant. Gloire à Dieu. Donc, si on peut voir maintenant, je vais juste vous montrer les raisons pourquoi certaines personnes ne le feraient pas, pourquoi certaines personnes ne veulent pas honorer Dieu dans leurs dîmes et leurs offrandes. Une des choses, c'est dans 1 Timothée chapitre 6 et le verset 10. C'est une question d'amour, en fait. C'est jamais une question économique. Comprenez ceci. Si on remet notre dîme au Seigneur Jésus, si on remet au Seigneur ce qui lui appartient, c'est une question d'amour du cœur. C'est parce que notre trésor est dans les lieux célestes. Et quand on ne le fait pas, c'est parce qu'on aime autre chose plus que Dieu, tout simplement. Ça peut être à cause de l'ignorance, je comprends. Il y a beaucoup d'enseignements dans le corps de Christ qui varient à ce niveau-là. Peut-être on est enseigné d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, vous pouvez avoir la parole de Dieu, les versets que je vous présente. Mais dans 1 Timothée 6, 10, c'est dit, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Voyez-vous, l'amour de l'argent. Ça ne dit pas que l'argent est la racine de tous les maux, mais l'amour de l'argent. Quand on aime l'argent plus qu'on aime Dieu, c'est là où on a des problèmes économiques. Vous comprenez? Bon, gloire à Dieu. Alléluia. Je ne serai plus jamais un mendiant. Si vous dites, OK, moi, aujourd'hui, j'ai compris des choses, que j'ai le privilège de semer dans le royaume de Dieu avec mes offrandes. Je peux faire des aumônes également, aider les pauvres. Gloire à Dieu, je peux faire ça aussi. Et je peux honorer mon Dieu en honorant son royaume et dire, Seigneur, je remets ce qui t'appartient à ton royaume. Mais je ne veux pas juste le faire de n'importe quelle façon. Je veux vraiment bénir avec mes paroles, avec mes prières. Quand Mathilde et moi, on fait des semences, souvent, elle arrive dans mon bureau, elle a préparé notre enveloppe de dîmes et on ne prend pas ça d'une façon juste comme... Ce n'est pas un paiement d'Hydro-Québec, vous comprenez? Ce qu'on est en train de faire, c'est de l'adoration envers notre Dieu. Et puis on prend, et des fois même j'ai mis l'huile d'onction, vous avez dit, pourquoi tu fais ça? Je me sens inspiré. Puis je dis, au nom de Jésus, je déclare que ces semences produisent des fruits dans ton royaume, Seigneur Dieu. Puis je te remercie parce que je suis connecté à la bénédiction qui se manifeste dans ma famille. Oui, dans ma famille d'église, mais dans ma famille personnelle, j'appelle la bénédiction qui se manifeste au nom de Jésus, parce que je suis connecté à la bénédiction. Vous savez, des fois, les gens voudraient dire, « Non, non, fais pas ça, fais pas ça. Regarde ce que tu perds. » Savez-vous, les gens dans le monde, ils placent leur argent dans la cigarette, dans l'alcool, dans toutes sortes d'affaires. Ils se font voler constamment. Ces gens-là ne calculent pas où ils investissent leur argent. Mais pour l'enfant de Dieu, nous, on peut dire, « Seigneur, moi, je veux t'honorer, t'adorer avec ce qui t'appartient. » Et Dieu le voit. Et quand on a la pensée, juste le minimum, vous savez, on n'a vraiment pas compris. Je lisais un livre cette semaine d'un frère que j'ai entendu en Californie. Et puis, il racontait comment il y avait des commerçants que leur désir était de toujours augmenter leurs dons pour le royaume de Dieu. Il y en a qui donnaient jusqu'à 70 % de leurs revenus. Parce qu'eux autres, leur désir, c'est de financer le royaume de Dieu. Quand Dieu bénit, c'est pour qu'on soit une source de bénédiction. Vous comprenez? C'est toujours ça. Si on a le cœur de Dieu, on va laisser la bénédiction de Dieu couler à travers notre vie pour financer les choses qui sont dans son cœur, dans ce monde. Comprenez-vous? C'est pour ça qu'il y a des hommes d'affaires, il y en a qui sont dans le commerce, ils veulent toujours augmenter, ils ne veulent pas juste limiter à 0,38 cernes. Ils ne sont pas en train de dire comment est-ce que je peux donner le minimum, ils sont en train de penser comment est-ce que je peux financer le royaume de Dieu. Puis quand on a le cœur de Dieu, c'est là où on voit la bénédiction vraiment, pas juste personnellement, mais dans le royaume terrestre en ce moment, dans les églises. C'est là où on peut prospérer, c'est là où on peut financer les projets qui sont dans le cœur de Dieu. Par exemple, comme au Congo, les autres ministères de l'Assemblée, l'équipe de la louange, par exemple, acheter des nouveaux instruments, comme on vient de faire récemment. On peut financer un nouveau site web, on peut payer des émissions de télévision, de la radio. On peut financer les œuvres de Dieu quand on honore le Seigneur comme ça. Amen? Bon, sauf que là, ce qu'on veut faire, en terminant, je veux juste vous lire certaines promesses. Si vous dites, moi, là, je veux faire partie de ce royaume sur le plan financier, bien, vous faites déclarer avec moi, je ne serai plus jamais un mendiant. Jamais. Dans le psaume 37, verset 25 que j'ai lu, je vais vous relire. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Gloire à Dieu, ma destinée, ce n'est pas d'être un mendiant, mais je suis un enfant de Dieu, et Dieu, mon Père, prend soin de moi. Gloire à Dieu. Dieu prend soin de moi. Le psaume 23, verset 1, vous pouvez le noter dans votre Bible. C'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jamais, je ne serai jamais dans le manque parce que je mets le royaume de Dieu en priorité. Dans Philippiens 4, 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, mais remarquez, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Mais savez-vous où est le combat? C'est quand dans votre vie actuelle, dans votre réalité, les choses ne semblent pas être glorieuses. C'est là où il y a un combat. C'est là où vous avez besoin de commencer à déclarer sur vos situations présentes la parole de Dieu. Vous dites, comme c'est écrit, « Mon Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. » C'est là où on a besoin d'être violent en esprit et prendre les paroles de Dieu et déclarer ça sur vos finances. Mais il y a des gens qui vont juste prier, « Seigneur, fais quelque chose, Seigneur, fais quelque chose. » Dieu a fait quelque chose. Il vous a donné l'autorité de déclarer la bénédiction de Dieu. Vous dites, Seigneur, moi, je suis une personne qui honore le royaume de Dieu. Je remets mes dîmes à ton royaume. Seigneur Dieu, je marche en fidélité. Et à cause de ça, tu m'as donné l'autorité. Je peux chasser l'ennemi qui veut venir me voler. Quand l'ennemi vient, je dis, au nom de Jésus, tu quittes mes finances et vous verrez une différence. Gloire à Dieu. Aussi, vous pouvez déclarer, mes finances sont sous le parapluie de la bénédiction. Dans Proverbe 10, verset 22, il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Est-ce que c'est la Bible, ça? Si vous ne croyez pas dans ce que je viens de vous partager aujourd'hui concernant le cœur de Dieu pour vos finances, si pour vous, vous dites, ben, ça n'a pas rapport ça, à l'Église, si vous ne croyez pas que Dieu est concerné avec votre vie financière. Lisez, au nom de Jésus, je vous supplie, allez lire les proverbes. Passez 30 jours, lisez les proverbes et revenez me voir dans un mois et dites-moi que Dieu n'est pas concerné par vos finances. Lisez les proverbes, vous verrez, c'est partout là. Vous allez recevoir de Dieu des révélations pour vos finances en lisant les proverbes. Je vais vous encourager. Amen. Deutéronome 28, verset 8, c'est dit, « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers, dans toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Amen. Gloire à Dieu. Écoutez bien un autre verset, Proverbe 8, versets 20 et 21. « Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. » Gloire à Dieu. C'est la Bible. 2 Corinthiens 8, 9, un passage qui concerne, tout au long le contexte, nous parle de finances. 2 Corinthiens 8, verset 9, dans la Bible du Sommeur. « Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. » Lui qui était riche, Jésus était riche au ciel là, avant de venir, il s'est fait pauvre pour vous, afin que vous soyez encore plus pauvres. Non, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Parce que le cœur de Dieu pour ses enfants, ce n'est pas la pauvreté. Gloire à Dieu. La provision financière, si vous comprenez ceci, que la provision financière que Dieu vous donne, c'est toujours un but. De un, Dieu vous aime, il veut prendre soin de vous, mais c'est le désir de prendre soin des choses qui sont dans le cœur de Dieu. Cette semaine, comme je disais, un livre d'un homme de Dieu qui est prêché en Californie, ce que je voulais vous raconter, c'est que cet homme-là a eu une visitation d'un ange, puis il y a eu des révélations concernant les finances du royaume. Et en gros, le livre dit ceci. Tant et aussi longtemps qu'on a le cœur de Dieu pour les projets de Dieu, la provision est toujours là. En gros, c'est ça. Si on a un cœur pour les choses que Dieu aime, vous allez toujours être correct. Je vous termine avec ceci. Okay? Je vous donne 3 points en terminant. C'est 3 points avec Joel Spink, ça va être long. Non, ça va être très court. Écoutez bien ceci. Si jamais la crainte veut s'emparer de vous, si vous entendez parler des choses, vous allez sur Internet puis vous voyez la crise économique arrive, puis vous avez des craintes, comprenez ceci. Vous pouvez bannir la crainte de votre vie, la crainte du manque. Vous pouvez bannir la crainte du manque dans votre vie en faisant une chose, adopter un style de vie de semence. Semer constamment, peu importe, à droite, à gauche. Vous allez au resto, bénissez quelqu'un, semez constamment. Alléluia, que ça fasse partie de votre vie. Comme vous le faites, vous semez. Je ne dis pas juste semer à l'église, ce n'est pas ça. Que votre vie soit un style de vie de semence, à droite, à gauche, partout où vous semez. En semant constamment, devinez ce qui va se produire. Il va y avoir des récoltes partout. Il va y avoir des récoltes qui vont arriver dans vos vies. Donc, semez, adoptez ce style de vie. Parce que pendant la famine, si vous avez déjà semé, même avant, il va y avoir une récolte pour vous, même pendant la famine. Gloire à Dieu. Donc, adoptez la vision, je vais laisser couler l'amour de Dieu dans ma vie constamment, par la générosité. Une autre chose très importante, aimez les pauvres. Aimez les pauvres. Proverbe 19, verset 17 nous dit, « Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre, parce que les pauvres sont dans le cœur de Dieu. » Vous voyez quelqu'un de défavorisé, puis la personne a besoin de manger de l'épicerie cette semaine, puis ils n'ont pas les moyens, puis vous êtes là, puis vous dites, « OK, Seigneur, mais moi, si vous êtes là, puis vous dites, « Bien, si j'en donne, moi, j'en aurai pas pour moi. » Mais si vous êtes pas égoïste, puis vous pensez à la personne, vous dites, « La personne a besoin, je suis capable de partager, puis je vais donner de mon nécessaire, puis je vais aider cette personne-là, je vais faire une aumône, je vais semer. » Et vous savez ce que Dieu a dit? Moi, j'aime ça. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. Quand vous faites des prêts à Dieu, là, il ne vous volera pas. Il y a des êtres humains, des fois, on leur prête de l'argent, puis ils ne nous redonnent jamais notre argent. Avez-vous déjà vécu ça? Je l'ai vécu, moi. C'est mieux de donner. Prêtez pas de l'argent, donnez. En tout cas, faites ce que vous voulez. Là. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. Qui lui rendra selon son œuvre? Parce que là, Dieu dit, « Ah, ben, je voulais que tu prennes soin de cette personne. Je voulais justement que cette famille mange des pommes. » Puis tu lui as donné des pommes. À cause de ça, je vais te donner un pommier. Amen, gloire à Dieu. Rappelez-vous, mon dernier point, dit Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous de toujours honorer Dieu comme étant votre source. Rappelez-vous de ceci. Vous n'aurez jamais peur de manquer si vous dites, « Mon Dieu est ma source. » Je vous lis un dernier passage, le peuple de Dieu peut se réjouir et l'équipe de la louange peut s'avancer. Alléluia. Deutéronome 8, verset 17 à 18, ça dit, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Dieu nous dit, « Non, non, dis pas ça. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. » Acquérir quoi? Les richesses. « Afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Alléluia. Donc, quand la provision arrive dans votre maison, vous dites, « Oh, vous dites pas, c'est parce que je suis tellement bon, j'ai fait des semences, vous voyez ce que j'ai fait là. » Si vous faites ça, oh, passez à côté. Mais si vous dites, « Dieu est ma source. » Vous dites, « Ah, mais comment ça, vous avez telle percée? Je pensais que c'était pour faire faillite. » Mais là, Dieu est ma source. Dieu a entrepris miraculeusement. Il y a toutes sortes de situations différentes dans nos vies. Mais rappelez-vous toujours, si j'ai le cœur de Dieu, j'aime les pauvres. Là. Une des choses, aimez les pauvres comme Dieu aime les pauvres. Aimez-les, Dieu va s'occuper de vous. Vous prêtez à l'Éternel et vous semez constamment, donc vous allez récolter constamment. Alléluia! Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui te donne la force d'acquérir ses richesses. J'aimerais ça prier pour vous. J'espère que ce n'était pas trop compliqué. Vous savez, il n'y a aucun joug, aucune obligation dans cette maison. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi, j'ai compris que je veux honorer mon Dieu. Je veux honorer mon Dieu et j'aime ça, faire partie de son royaume et de vivre les promesses du royaume dans ma vie. Et mon désir, ce n'est pas de dire qu'est-ce que je peux donner en moins à Dieu. Non, c'est qu'est-ce que je peux faire pour donner plus à mon Dieu. Alléluia. Puis si vous avez ce cœur-là, vous verrez la gloire de Dieu. Transformez vos finances, transformez vos vies. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Père éternel, on veut juste te louer, te remercier, Seigneur Dieu. Peu importe, Seigneur, ce qui se produit dans notre monde, peu importe l'inquiétude qui peut régner, le climat spirituel des gens, les gens qui sont angoissés, qui vivent toutes sortes de craintes, Seigneur, je te remercie. Parce que nous sommes différents. Nous sommes ton peuple. Il y a une provision de paix, une provision financière pour ton peuple. Je te remercie, Seigneur Dieu. Merci parce que le ciel est ouvert sur nos têtes. Alléluia, nous te louons. Nous voulons t'honorer, Seigneur Dieu, non seulement avec nos bouches, non seulement avec nos chants, non seulement avec nos mains lorsque nous t'adorons en battant les mains, mais nous voulons semer également dans ton royaume et voir ton royaume avancer. Alléluia, nous te louons, nous te glorifions au nom de Jésus. Et Seigneur, je veux prier maintenant pour mes frères et mes sœurs qui ont peut-être des problèmes au niveau de leurs finances. Seigneur, je sais que tu les aimes et que tu veux qu'ils puissent vivre une percée. Et je m'accorde aujourd'hui avec leur foi. Je m'accorde avec leur foi pour une percée aujourd'hui, une percée financière. Seigneur Dieu, je te remercie parce que tu menaces celui qui vient te dévorer. Alléluia, merci parce que tous ceux qui se placent sous le parapluie vivent des bénédictions, vivent des percées aujourd'hui. Ils sortent de ce cycle de la malédiction qui règne dans le monde. Mais aujourd'hui, ils marchent bénis de toi, et progressant dans tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je veux juste glorifier le Seigneur aujourd'hui. Je veux juste dire une chose. Des fois, les gens peuvent penser, si on enseigne sur les finances du royaume, c'est parce qu'on a un motif impur. Puis c'est pour ça qu'il y a plusieurs pasteurs qui me disaient qu'ils avaient peur d'enseigner sur les finances. Mais je peux vous dire, on n'a pas un motif impur. On n'est pas dans le manque. Je veux juste vous dire, cette église n'a jamais été aussi prospère financièrement que dans toute l'historique de notre église. Je ne vous prêche pas dans le besoin, je vous prêche aujourd'hui dans la foi. Voyez-vous une différence? Financièrement, les coffres n'ont jamais été aussi bénis que nous sommes en ce moment. Je veux vous faire comprendre, je ne prêche pas ce que je vous prêche parce qu'on a un besoin. Alléluia! Le royaume de Dieu a toujours besoin des choses, gloire à Dieu, mais nous prêchons d'une position d'abondance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, nous te remercions, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Merci parce que dans cette maison, c'est le shalom qui règne. Le shalom, rien de manquable, rien de brisé. Alléluia, merci, Seigneur Dieu. Vous savez, ce matin, pendant que je prêche, j'ai prêché sur la provision divine. Mais la plus grande provision, c'est de faire partie de ce royaume-là. Si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'aimerais ça prier avec vous pour que vous soyez transférés du royaume de la malédiction et faire partie du royaume de la bénédiction. De un, où vos péchés sont effacés, où vous avez une place réservée au ciel avec le roi des rois Jésus pour l'éternité. Mais le seul prix, c'est votre orgueil. C'est dire, je me reconnais comme pécheur, j'ai besoin d'être pardonné de tous mes péchés, je te donne ma vie Jésus. Et si vous dites oui, si vous dites oui aujourd'hui, Jésus va vous recevoir, le Père va vous recevoir et vous serez adopté dans la famille de Dieu. Est-ce qu'il y a une ou d'autres personnes ou plusieurs personnes ce matin qui aimeraient faire de Jésus le Seigneur de sa vie? Est-ce qu'il y a des personnes ici, vous êtes là et vous dites, moi je veux donner ma vie à Jésus. Et maintenant, s'il y a une ou des personnes aujourd'hui, vous aimeriez se lever la main, je ne vous vois pas là. Et si vous dites oui aujourd'hui sur Internet, vous allez dire, mais comment on peut inviter les gens à accepter le Seigneur après une prédication comme ça? Oh, on parle du royaume de Dieu. On parle du royaume de Dieu. Et des fois qu'on découvre le royaume de Dieu, on dit, hey, je veux en faire partie. Mais vous avez simplement à dire oui à Jésus, à la maison, sur Internet. Dites, oui, je donne ma vie à Jésus. Je veux entrer dans la bénédiction. Je veux passer l'éternité avec le roi des rois. Si vous dites oui
Gloire à Dieu, c'est tout simple que ça. Vous pouvez prier une prière dans votre cœur et offrir votre vie au Seigneur. Et ensuite, écrivez-nous en écrivant à info@evqmedia.com. Et puis, on va se réjouir avec vous et vous référer à une bonne église dans votre ville ou votre province ou votre nation. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia, nous te louons, Seigneur Dieu. On va chanter une dernière fois. Si vous avez besoin de percer ce matin, peut-être vous êtes là et vous dites, j'ai besoin de percer ce matin. J'ai besoin de touche de Dieu. J'ai besoin que Dieu intervienne dans mes finances ou dans ma vie. Peu importe. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à lever vos mains et recevez la provision du Seigneur dans vos vies. Peut-être c'est un besoin physique de guérison. Levez vos mains aujourd'hui et dites, Seigneur, moi, je reçois ce que tu veux m'offrir aujourd'hui, ce que tu as payé à la croix pour moi. Alléluia. Je ne veux pas quitter cette place sans avoir reçu de toi aujourd'hui. Alléluia. Oh, merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole. Merci pour les lois spirituelles que nous retrouvons concernant ton royaume. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous enseignes ta parole. Merci parce que nous pouvons marcher dans tes préceptes et vivre cette victoire. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux m'accorder aussi avec mes frères et mes sœurs. S'il y en a qui ont maudit leurs finances, aujourd'hui même, nous renversons ces paroles maintenant. S'il y en a, pendant qu'on louait, je ressentais dans mon esprit, il y en a qui ressentaient qui devait renverser ces paroles-là, qu'on est toujours dans le manque, on n'a jamais assez, on est toujours comme ci, on est toujours comme ça. Commencez maintenant à dire, je renverse au nom de Jésus, on est toujours dans l'abondance. Alléluia, prophétisez sur vos finances. Est-ce qu'on peut l'entendre ce matin? Dites, j'ai toujours plus qu'assez. J'ai toujours en abondance. Là, dites-le avec foi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manque jamais de rien. Alléluia. C'est la Bible. Je crois la Bible. Je déclare la Bible. Au nom de Jésus. Alléluia. Je crois, je reçois. Amen. Alléluia. Et en terminant, je vais déclarer sur vos têtes, si vous recevez par la foi, vous recevez par la foi, un mot très simple que les Juifs connaissent bien. Ils l'activent constamment. À chaque fois qu'ils disent bonjour, ils disent pas bonjour, eux. Ils disent un mot qui commence avec un S. Préparez. Amen. Préparez vos cœurs, je vais le déclarer. Mais déclarez sur vos têtes aussi à la maison. Vous pouvez vous réveiller le matin, voir votre femme et dire « Shalom, chérie! » Pourquoi pas? Amen. Amen. Merci Seigneur Dieu. Je déclare maintenant sur chaque tête, chaque personne qui reçoit le Shalom de Dieu. Rien de manquant, rien de brisé au nom de Jésus sur les internautes. Le shalom de Dieu maintenant. Le shalom de Dieu sur le peuple de Dieu. Alléluia, il y a une différence pour le peuple de Dieu. Merci Seigneur Dieu, il y a une différence pour le peuple de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Bonne semaine et à mercredi soir.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.